de Radio Silence, bonjour. Vous écoutez Radio Silence, c'est Flash sur le monde depuis Yaoundé, maintenant vous savez, où nous sommes en mission hein, politique pour couvrir un peu la politique au Cameroun, parce que le Cameroun est quand même à un moment, comment j'allais dire, un carrefour de son histoire, avec la page, une page qui va se tourner, et notamment à travers ce qu'on attend beaucoup ici, c'est la décentralisation. Il y aura donc des élections le 9 février, c'est bientôt, c'est les élections locales, comme on dit, municipales et nationales, législatives, plutôt régionales. Elles sont très attendues et en même temps, il y a certains qui sont réservés sur l'opportunité des élections, mais le débat est clos. Elles auront lieu, bel et bien lieu. Et il faut s'attendre à quoi l'avenir nous dira. Parce que quelqu'un avait écrit un livre qui disait « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Parfois, quand vous regardez certaines zones locales, vous n'êtes pas loin, je veux dire, on parle ici de village, de zone rurale, vous n'êtes pas loin de vous poser des questions. Mais il ne faut pas être pessimiste, puisque les choses évoluent, les gens évoluent. Par contre, ce qui n'évolue pas beaucoup, c'est l'éducation du citoyen. C'est le peuple abandonné lui-même à sa propre ignorance et inculture, je ne vais pas dire politique, mais déjà citoyenne. On en a un exemple de cela, c'est que récemment, un enseignant s'est fait agresser. Il a même été tué par son élève, un enseignant en classe de mathématiques. Apparemment, on n'a pas trop su, mais le récit dit que cet élève en avait marre des mauvaises notes qu'il recevait de la part de cet enseignant qu'il ne supportait plus pour cette raison-là. Et il avait décidé de lui faire quelque chose, probablement la peau, parce qu'il était armé hein, d'une arme blanche. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. La note est arrivée mauvaise, une altercation. Et puis, il a asséné des coups de poignard, enfin de cette arme blanche-là, ce professeur, cet enseignant, qui est décédé des suites de coups et blessures. Alors, c'est un quasi-traumatisme, parce qu'on se demande comment un enfant, je crois qu'il est en quatrième, hein, peut se révéler comme ça, être un criminel au sein d'une institution noble comme l'école. Et du coup, ça interroge beaucoup de choses, notamment trois choses. Ça interroge l'environnement socio-culturel, je ne sais pas comment l'appeler, éducatif dans ce sens, enfin hors scolaire. Ça interroge la place de la violence dans, on parle toujours des médias, ben oui, mais aussi dans la gouvernance, parce que nos gouvernants, ils ne nous renvoient pas toujours une image des gens doux, des gens avenants, mais c'est plutôt la loi de la force. Et d'abord, on parle de la force tout le temps, et on la voit en œuvre, et apparemment, c'est les plus forts qui gagnent, peu importe la méthode. Et le crime lui-même, il est devenu un peu, comment dirais-je, quelque chose de flottant. En même temps, il existe, en même temps, il semble être passé dans la normalité, vu les médias. Et on interroge aussi, du coup, le pauvre enseignant, qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'il devient ? Si on regarde tous ces trois éléments, qu'on parte donc de cet environnement sociopolitique, sociétal, voilà, on va dire comme ça, où on a les dirigeants qui sont soupçonnés de tous les méfaits, mais qui ne font jamais l'objet d'un contrôle, donc des passe-droits, des gens qui passent toujours la ligne jaune. On a une impunité totale comme ça, pour tous les contrevenants en col, je ne sais plus, c'est col blanc, à qui on ne fait rien. On a, bien sûr, certains sont emprisonnés, mais ça reste aussi très sélectif, donc c'est une justice à deux vitesses. On a une tolérance comme ça face à la délinquance, qu'elle soit voilà, institutionnelle ou rurale, citadine. Et, enfin, citadine, et je voulais dire urbaine, Et cette intolérance-là a créé notamment un mouvement de justice sociale, c'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on attrape un voleur sur le fait, justice populaire, ben on le brûle, on lui fait la peau, on peut tout lui faire, mais ce qui est sûr, c'est que la population va le liquider là et maintenant, et il va mourir dans les heures qui suivent. Et la police ne peut rien dire, ne peut rien faire. Ben, tant pis pour vous, si vous êtes un voleur et que vous tombez dans les mains de la justice populaire qui, elle, est efficace tout de suite. Parce qu'ils en ont eu marre de forme de laxisme, de laisser-aller. Vous voyez, c'est ça l'environnement. Et après, on a dans cet environnement toujours institutionnel, au niveau institutionnel, une forme de culte pour la médiocrité, de promotion d'ailleurs de la médiocrité qui font que bon, vous allez à l'école avec des gens, vous retrouvez par exemple ce qui s'est passé dernièrement au moment du recrutement des PhD ici, il s'est trouvé que certains vacataires enseignants ont fait des candidatures en même temps, ont déposé des candidatures en même temps que les gens à qui ils ont enseigné. Et ben, les étudiants sont passés et puis eux, voilà, les enseignants, ils ne sont pas passés. Scandale. C'est pas normal, parce qu'on ne recrute pas quand même à ce niveau-là avec rien. Mais il semblerait que ben, certains ont des passe-droits. Passe-droits, c'est ce que je vous disais, la culture du passe-droit, la culture du clan et la culture et la promotion de. C'est le creuset de la promotion de la médiocrité qui font que ben, un enfant, il peut vraiment se demander pourquoi aller à l'école, à quoi bon? Environnement social, toujours. C'est du côté, là c'est le côté général, hein, la promotion, les recrutements, tout n'est pas très clair, mais porte à faire croire qu'à l'école, la note, voilà, elle-même n'a plus de sens, puisque de toute façon, vous êtes premier, l'autre est 10e, 15e, il risque d'être demain devant vous, donc la note elle-même a perdu de son sens, et effectivement, l'enfant peut se demander, mais pourquoi on le note mal? Vous voyez, ça crée des confusions dans l'esprit de l'enfant. Et moi, je vais dire pour ma petite expérience que j'ai eue ici d'enseignant, les enfants n'ont plus cette notion que la note peut être punitive. En fait, pour eux, si on est là, on est tous pareils, puisque de toute façon, qu'on soit premier ou dernier, on risque de connaître un sort incertain selon que on connaît l'autre ou pas l'autre et selon que on a tel ou tel tuteur. Donc, les enfants peuvent se poser des questions à juste titre sur l'opportunité de la notation. Ils peuvent même se demander à quoi ça sert l'école. D'autant plus que, alors maintenant, du côté des filles, on voit bien que les médias nous font la promotion des formes, vous voyez, sexuelles. Tout se rapporte au sexe. La femme est devenue, excusez-moi, une cuvette, bon voilà, pour recevoir ce qu'il faut. Et les médias arrivent à nous dire que vous devez avoir trois rapports sexuels par semaine, sinon vous n'êtes pas normal. Ils viennent normer un truc qui n'existe pas. Des petites filles qui se baladent avec, vous voyez les films, hein, avec des tenues tellement indécentes que celles d'ici à 16 ans, elles se disent, bah, peut-être même avant, à 14 ans, pourquoi pas moi? Et donc tout ça fait que l'éducation est prise en charge. Beaucoup par les médias, beaucoup par la rue, beaucoup par les apparences, vous voyez, de cette femme-là qui n'a plus besoin d'aller à l'école. La femme est complètement disqualifiée, déclassée aujourd'hui. C'est un objet sexuel, il faut être belle, il faut aller à la coiffure tout le temps. Moi, je suis dans une zone rurale, je vous assure qu'il y en a qui changent de coiffure toutes les semaines. Je me demande où elle trouve l'argent et pour qui et pourquoi d'ailleurs tout cela. L'environnement, c'est entre la boue quand il pleut et la poussière quand il fait chaud, il n'y a presque rien que les bars, les petits trucs, mais c'est de la folie. Mais que voulez-vous? Chacune a ses chances dans cette histoire-là. Et toute cette culture-là qui ramène la femme à cet objet, je veux dire, de décoration. Ça interroge aussi la note à l'école. Bon, pourquoi on y va? On y va quand même. Mais parce que les parents essayent de rattraper ce qu'ils peuvent rattraper. Et puisque, avec cette histoire-là, on a accusé le déficit d'éducation parentale, qui est réel, mais c'est que les parents sont un peu débordés. Ils sont débordés par deux choses. Ils cherchent à survivre, de leur côté, et de l'autre, les enfants. sont toujours sur Internet où ils voient des trucs incroyables, donc ils affrontent les parents. Il n'y a pas beaucoup de temps pour éduquer l'enfant, sauf à venir le cogner. Et parce que le parent déjà lui-même, voilà, c'est dur. Et après, l'enfant vient lui casser la tête alors que lui se démène. Il y a un affrontement familial au sein des familles. Et d'autant plus qu'ici, il n'y a pas de politique familiale, il n'y a pas de politique sociale. Les parents sont à la fois débordés, mais paradoxalement, ce sont les mêmes qui ont introduit une compétition scolaire absolument absurde, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler là. Ils sont prêts à payer des sommes inouïes pour que l'enfant aille à l'école, et donc pour eux, une fois qu'ils ont payé, ça veut dire que l'enfant doit réussir. Il faut surtout pas l'emmerder, parce que déjà, lui, il a été emmerdé pour payer les frais de la scolarité, vous voyez un peu, qui sont excessivement chers, compte tenu de la qualité de l'enseignement, s'il faut évaluer cette qualité-là à la production post-scolaire, qu'on ne voit pas trop, parce qu'à la fois on leur donne des postes et puis ils ne sont pas efficaces ou compétents, ou alors ils se plaignent d'être restreints, et de l'autre côté, l'univers ne favorise pas la création, ne favorise pas l'investissement, il est complètement capté par ce que j'ai appelé le traitement du traitement, c'est-à-dire des conférences, des institutions intermédiaires qui happent tout l'argent et toute la dynamique qui est mise en œuvre pour cela. Et c'est compliqué, ces choses-là, parce je les ai vues à l'œuvre aussi en France. Et du coup, le parent qui connaît tout ce que je vous ai indiqué là, qui attend que son enfant, une fois admis que c'est comme à l'ENA, ça veut dire t'as réussi, ben, il est contre l'enseignant qui note mal son enfant. Vous voyez, il y a une opposition frontale entre les parents et les enseignants. Alors l'enseignant, il devient quoi dans cette affaire? C'est ça le problème. L'enseignant, il est un peu perdu parce qu'il n'est soutenu apparemment par personne, détesté même à la limite, par les élèves et par les parents, ignoré par la société. L'institution scolaire, on s'interroge maintenant en elle-même dans son fonctionnement, on ne comprend pas très bien le projet toujours, parce que ce projet-là, il rejoint le projet global de la société. Où la société va, c'est dans ce sens aussi qu'ira les enseignements pédagogiques et le travail. Et ici, on a un truc qui est aberrant, c'est que tous les ans, on changeait complètement de livre, ce qui venait après. Bon, enfin, laissons, on va pas parler d'institution scolaire parce qu'à elle toute seule, on va perdre le fil du sujet. Donc, les enseignants demandent une revalorisation de leur statut, déjà salarial, ce qui est vrai et normal parce qu'un enseignant reçoit un salaire, c'est pas de misère, mais comparativement au coût de la vie, quand même, ça laisse à désirer. Comme en plus la société ici, c'est du m'as-tu vu, m'as-tu hein, du paraître, quand on voit l'enseignant qui est à pied, le pauvre, il monte sur les motos comme les étudiants, il n'a pas les moyens, il habite voilà où il peut habiter, là, au quartier, à côté des élèves, ça va pas du tout, ça va pas du tout, il faut changer, il faut donner un statut à ces enseignants-là qui fassent que leur autorité quand même soit visible. Sur le territoire, et peut-être que la décentralisation va s'occuper de ces choses-là qui sont quand même importantes, symboliquement parlant. L'enseignant est très pauvre, et bien sûr, il peut bénéficier des crédits facilement à sa banque, mais ça va pas du tout. Alors, comment conclure ce problème-là? Si pour le moment la ministre de l'enseignement secondaire fait une tournée dans les établissements scolaires, mais ça c'est de la promo institutionnelle, c'est bien. Pourquoi pas, oui, l'institution, l'État tient cela, ça tient, enfin, prend cela à cœur. Après, et puis après quoi? L'enseignant, il veut voir quand même que son statut soit revalorisé. Il veut voir quand même que l'institution scolaire se réforme au sens où la note doit avoir du sens, la discipline doit avoir du sens, la sécurité doit avoir du sens. Il faut qu'il y ait des lignes jaunes que l'enfant ne doit pas traverser. Et ces lignes jaunes doivent être inscrites dans un règlement qu'on transmet à l'enfant et aux parents. Il faut. C'est un problème qui date. Donc, vous voyez, quand on en arrive là, ça date où l'enfant s'est dit, il va se faire justice au point de tuer un enseignant. Mais non, on peut tuer maintenant, vous savez, de toute façon, le crime aujourd'hui, hein, Vous tuez pas, c'est pareil. Le bien et le mal, c'est pareil. On revient à la société là, par l'autre porte, parce que je ne vais pas trop m'appesantir sur la condition de l'enseignant qui est quand même difficile. L'enseignant du. Parce que les enseignants, il faut aussi distinguer. Il y a l'enseignant du secondaire, il y a l'enseignant de l'université. Lui, il est bien loti. Mais ceux du secondaire, non, encore qu'à l'université, dans les écoles privées, c'est un peu la jungle. Et il y a certains au niveau supérieur qui payent des billes, et puis d'autres qui payent très bien. Tout ça, c'est noyé un peu là, parce qu'il y a les élections qui arrivent. Mais c'est un vrai sujet, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a appris qu'il y a madame, une sous-préfète, une femme, qui s'est présentée dans un établissement scolaire pour aussi aider un peu à apaiser le climat, faire passer le message que l'État prend à cœur le problème. Elle s'est présentée devant une salle de classe et il se trouve que la salle de classe était un examen dont le professeur lui a dit que ce n'était pas possible d'interrompre l'examen, qu'il fallait peut-être attendre. Ben, il aurait reçu une gifle, et puis. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on est tous. Les gens sont tous énervés, chacun veut peut-être maintenant trop bien faire, il y a peut-être du zèle en l'air, et puis les profs, eux, ils sont aussi énervés parce que, voilà, il y a un ras-le-bol, ils ont trop supporté beaucoup de choses, et là, ça suffit, quoi. Bien, la place de l'école dans la société, c'est. Une grande question, puisque ça devait être le symbole de la République, de l'égalité républicaine notamment, et vous savez que depuis, ce n'est plus le cas, l'ascenseur social ne suit plus, on a tous ces problèmes-là que la France connaît, hein. Ici en accéléré, en raccourci même, je vais dire en raccourci, et à peine, voilà, on veut amorcer le développement, on rencontre déjà les problèmes du post-développement. Franchement, c'est. Je sais pas, mais restons optimistes. Comme dirait Voltaire. Vous avez écouté Flash sur le monde, sur Radio Silence, depuis Yaoundé. C'était Élise Mbok, et je vous dis à bientôt.